Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Journaliste, écrivain et directeur du Monde diplomatique, Serge Halimi signe ici la préface de cet ouvrage « L'art d'ignorer les pauvres » paru en 2011 dans la collection « Les liens qui libèrent » en collaboration avec le Monde diplomatique et sous la plume de l'économiste John Kenneth Galbraith. « L'art d'ignorer les pauvres » rassemble plusieurs textes d'origine et d'auteurs différents. Extrait de la préface. Il y a deux manières de favoriser le retour au travail des chômeurs, expliquait en 2010 l'hebdomadaire libéral The Economist. L'une est de rendre inconfortable ou précaire la vie de ceux qui reçoivent une allocation chômage. L'autre consiste à faire que la perspective d'un emploi devienne viable et attirante. La question de la viabilité d'une recherche d'emploi est cependant posée quand le taux de chômage atteint ou dépasse les 10%. Et l'attrait du travail salarié décline quand les rémunérations se tassent, quand le stress et les pressions se multiplient. Reste alors à rendre encore plus inconfortable ou précaire le sort des chômeurs. Telle est la stratégie que les libéraux au pouvoir et les organisations économiques internationales poursuivent depuis une trentaine d'années. Les articles de John Galbraith et de Laurent Cordonnier le rappellent avec une ironie ajustée au cynisme qu'ils exposent. Avec le texte bien antérieur de Jonathan Swift, 1729, qui conseillait aux pauvres d'échapper à la misère en saignant leurs enfants afin de les commercialiser sous forme de, je cite, « nourrissons de boucherie », plutôt que de se saigner eux-mêmes à élever leur progéniture au risque de la voir ensuite déraper dans le crime et servir de gibier de potence, on passe de l'ironie à l'humour sardonique. L'intérêt d'un tel registre tient à ce qu'il nous éclaire en nous épargnant l'emphase indignée, les émollientes pleurnicheries. Car qu'il s'agisse des propriétaires fonciers irlandais, des économistes de l'école de Chicago entourant Ronald Reagan, ou de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, leur opposer une protestation morale, faire appel à leurs sentiments, n'aurait guère de sens. Riche, instruit, intelligent, le plus souvent, c'est en effet en connaissance de cause qu'ils défendent une philosophie sociale conçue à leur avantage et qui, sans qu'on la caricature trop, se résume presque toujours ainsi. Les riches seraient plus entreprenants s'ils payaient moins d'impôts. Les pauvres seraient plus travailleurs s'ils recevaient moins de subsides. Des parrains aussi anciens que prestigieux fondent cette doctrine. Émissaire de la Révolution américaine à Paris et rédacteur de la Déclaration d'indépendance, Benjamin Franklin estimait dès 1766 que, je cite, « plus on organise des secours publics pour prendre soin des pauvres, moins ils prennent soin d'eux-mêmes et, naturellement, plus ils deviennent misérables. Au contraire, moins on fait pour eux, plus ils font pour eux-mêmes et mieux ils se tirent d'affaires. » En somme, abandonner les indigents à leur sort serait un moyen de leur rendre service. L'avarice devient ainsi une forme intellectuellement avancée de générosité humaine, voire, osons le mot, d'aide sociale. En temps ordinaire, une théorisation aussi aboutie de l'égoïsme serait déjà presque irrésistible. Que dire alors des temps de crise, des moments où la plupart des gouvernants nous serinent que les caisses sont vides, qu'un endettement croissant menacerait l'avenir de nos enfants. Instruit du danger collectif, de l'urgence de faire des sacrifices, chacun imagine alors assez volontiers que même en période d'austérité, il serait, lui, mieux remboursé de ses soins lorsqu'il tombe malade, mieux compensé au cours de ses périodes d'inactivité quand il devient chômeur, si d'autres, forcément moins méritants, ne l'étaient pas autant. On le sait assez, sitôt que la confiance en l'avenir se lasse, que les murs se referment sur eux-mêmes, les gens se dressent les uns contre les autres, surtout s'ils se côtoient et se concurrencent pour un même type d'emploi, de logement, d'école. Le soupçon que son niveau de vie médiocre ou le montant excessif de ses impôts s'expliquerait par les avantages innombrables dont bénéficieraient les assistés alimente un baril de ressentiment que la moindre étincelle peut faire exploser. Les pyromanes ne manquent pas. En un sens, les rationalisations distinguées du Fonds monétaire international, FMI, de l'OCDE, des boîtes à idées, les think tanks, ou de la Banque centrale européenne ont pour vocation d'encourager les gouvernants et les journalistes à frotter l'allumette. Alors, sus aux parasites. Le devoir d'informer va se charger de nous détailler la vie de château qu'il mène. Quand on est érémiste, relevé ingénument le point du 28 septembre 2006, eh bien, on a droit à l'allocation logement à plein temps, la suspension de ses dettes fiscales, l'exonération de sa taxe d'habitation, de sa redevance, de sa cotisation à la couverture maladie universelle. On a l'accès gratuit à la complémentaire santé de la CMU, la prime de Noël, le tarif téléphonique social, la réduction dans les transports, la gratuité des musées, diverses allocations supplémentaires en fonction de son lieu d'habitation. Le 4 juin 2011, le Figaro Magazine réservait à son tour sa une à une périlleuse enquête sur la France des assistés. Ces allocs qui décourage le travail. La couverture représentait un jeune homme vigoureux qui, sans doute bercé par la sollicitude de l'État-providence, somnolait dans un hamac tricolore. De fait, si ce fainéant touchait le revenu de solidarité active, RSA, il empochait alors, d'un coup, la somme rondelette de 467 euros par mois. 700 euros pour un couple sans enfant dans la même situation. RSA, un boulet dont le coût dépasse 10 milliards d'euros, relevait donc le Figaro Magazine toujours précis. Le ras-le-bol monte dans les départements, mais les Alpes-Maritimes se dotent d'une brigade antifraude au RSA. Une première en France, se réjouissait ensuite le Figaro Magazine dans un encadré nous signalant que 16 contrôleurs sont chargés de vérifier les factures d'eau, de téléphone et d'électricité. Ils travaillent avec la caisse d'allocation familiale et peuvent croiser divers fichiers administratifs. Ni M. François Pinault, propriétaire du Point, ni M. Serge Dassault, propriétaires du Figaro, n'ont habitué les lecteurs de leur publication à entourer d'autant de faveurs les contrôles de l'État qu'en général, ils jugent tatillons, bureaucratiques, inquisitoriaux, surtout quand ceci concerne les grosses entreprises et les riches. Mais il est vrai que messieurs Pinault et Dassault comptent au nombre des 100 plus grosses fortunes du monde. Avec 11,5 milliards de dollars pour le premier, 9,3 milliards de dollars pour le second, l'un et l'autre disposent d'un montant presque équivalent à ce que coûte chaque année le RSA pour la totalité des Français.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.